pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
3, 2, 1.
Denis Gravel, plus en forme que jamais. D'après moi, il y a eu des bonnes nouvelles. Là. Son immatriculation va augmenter.
Ah oui, je suis tellement content.
Oui. Hey, on était dedans, hein, parce qu'il y a de ça quelques mois, j'avais entendu parler, quelques balbutiements. En fait, je vais vous dire d'où ça provient, ce mémérage-là. C'est Pierre-Luc Lachance qui avait vendu la mèche à quelqu'un qui est très proche de moi. Et j'avais reçu l'information, puis par la suite, j'avais jasé avec quelqu'un du côté de l'opposition. Puis on m'avait confirmé que c'était entre 60 et 90 $ que ça allait être la taxe sur l'immatriculation. Puis finalement, ben c'est un 60$ de plus qu'on met...
Pour faire 90.
Pour faire 90. Donc, on était Target. Oui. Puis salutations à toute la belle gang de Boulevard, principalement à Jean-François Fortin qui a sorti la nouvelle ce matin. Il a été le premier à le faire.
Puis après ça, ça a fait comme du popcorn dans les autres médias.
Salutations à Radio-Canada qui nous ont nommés.
Oui, Le Devoir aussi.
Les autres ont dit « selon nos sources ».
Selon nos sources, on écoutait Boulevard. Puis, OK. Fait qu'on est rendu en gang avec Radio-Canada puis Le Devoir. Mais qui l'eût cru?
C'est quoi? La nouvelle, c'est quoi? C'est le prix de l'immatriculation. Puis, crime, Denis, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que tu vas pouvoir en jaser avec le maire marchand demain?
Oui, bien, je suis soulagé. En
le
fait,
marchand de taxes.
J'aurais tellement été déçu qu'on puisse pas débattre de ce point-là avec lui. Il y a des comptes à rendre, il y a des explications à donner. Évidemment, je veux y parler des audits, en fait, du bulletin de rendement du RTC qui va sortir plus tard.
Le rendement du RTC.
Moi, je me dis, écoute, je veux donner la chance aux coureurs, particulièrement le maire marchand qui court, tout le monde le sait, là, mais de dire, OK, ça, c'est le prix qu'on annonce. Mais si on se rend compte que le RTC dépense au gré du vent puis que la gestion n'est pas serrée puis qu'il y a des manques majeurs, ben j'imagine que ce prix-là va réduire, va être appelé à réduire. On va revoir nos feuilles de calcul puis on va retourner travailler parce que c'est une donnée fondamentale qui manque et à la lumière des débats qu'il y a actuellement au RTC, il semble y avoir des dépenses d'argent frivoles.
Est-ce que si je t'écoute, je te comprends bien en disant que cette taxe à l'immatriculation devrait baisser si on se rend compte que les comptes initiaux, soit la gestion de l'argent initial du RTC, est mauvaise, donc qui ont à couper ailleurs avant d'augmenter pour les citoyens.
Oui, mais là, je ne vis pas à Québec en disant ça. Je vis dans l'utopie, OK?
T'as mis tes petites lunettes. Mais la réflexion, c'est quoi, Denis?
Quoi?
Je la trouve pas innocente.
Bien, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu sois conséquent et ça serait brillant stratégiquement en dernière année, avant l'élection, de se garder une marge de manœuvre puis d'être en mesure de dire le RTC ne fait pas ses devoirs comme il faut, puis finalement, ça va être 60$ au lieu de 90. Ce serait peut-être ratoureux que ce soit une stratégie électorale, mais je viens de réaliser ça. Si jamais ça vire de même, on va être obligé de dire bravo.
Jackie Smith n'est pas contente.
Elle elle voulait 1500$.
Hier, il y a des auditeurs qui nous écoutaient jaser dans le Pit Stop, Denis, concernant les dépenses que pouvait faire le RTC.
Oui.
Qui était considéré comme un peu frivole. On avait les fameuses tasses à café.
Oui.
Après ça, fournir des adresses professionnelles. J'ai changé mon fusil d'épaule pour ce qui est des adresses professionnelles parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté pour me dire « Yann, oui, les adresses professionnelles pour les chauffeurs. »
Explique-moi.
C'est tel que tel. C'est un 6$ par mois par chauffeur. Puis oui, ils n'ont pas à prendre leur courriel constamment là-dessus. Puis ça peut peut-être pour vous autres représenter une perte de temps. Mais l'adresse courriel professionnelle du chauffeur va lui servir à rentrer dans le système informatique du RTC.
Okay.
Il va mettre son adresse courriel avec son mot de passe. Un peu comme dans toutes les entreprises privées. Là.
Mais tu ne peux pas y aller avec n'importe quelle adresse?
Si tu vas avoir accès avec ton tu vas avoir accès à cet ordinateur-là avec ton compte logué, tu dois rentrer ton adresse professionnelle.
Mais mettons que j'ai une vieille adresse que je traîne depuis mes 12 ans, là, mettons mais,
mes mode 12 danse, ans. Mode danse, passion 69.
Limbiscuit 6969 à hotmail.com.
Too hot for you à hotmail.com.
Tu pues du cul à hotmail.com.
C'est assez dur à suivre pour les informaticiens du RTC. Fait que, oui, effectivement, ça peut justifier le fait d'avoir une adresse professionnelle.
C'est cher, par exemple.
J'ai obtenu une note de service du département des freins dans le secteur Le Bourgneuf du RTC. Là.
Okay.
Et là, le sujet, c'est changement des pneus en période critique. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que le RTC, le 8 juillet, était en période critique et on a dit aux mécaniciens, veuillez noter que pour une période temporaire, les changements de pneus devront être effectués quand l'épaisseur de la semelle résiduelle est inférieure à 12,32 okay. Lors d'un changement planifié et non pas 5,32 tel que spécifié sur les bons de travail. Cette mesure a pour but de lisser la charge de travail et à venir ainsi prévenir l'immobilisation future des autobus. Donc, à milieu de vie,
oui.
On demandait aux mécanos de retirer les pneus qui étaient encore bons.
Ce que nous autres, on fait pas avec nos chars. Là.
Pour les jeter. Ouais. Pour améliorer.
Je peux-tu rouler dessus encore tout l'été? Oui, 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 mais ça se mêle, il va falloir le changer à l'automne. Deal.
Mais on n'a pas de responsabilité. Nous, ils transportent quand même des gens.
Ouais, nous autres, on veut juste survivre.
C'est nous, quand c'est nous, OK? Quand il y a des enfants ou d'autres personnes, on devrait y penser. Okay. Puis pour les autres sur la route aussi. Hein. Okay.
Mais pourquoi on prend l'autobus? Pour sauver la planète?
Idéalement.
Donc,
oui.
Quand les pneus sont pas finis, la moindre des choses, c'est de les garder jusqu'à temps qu'ils soient dus.
Mettons
ça
que ça va.
Pas fini à quelle marge?
Ça va à contre-courant de la mentalité 2024.
C'est au mois de juillet, il fait chaud.
Change les pneus.
Les pneus sont, on va se le dire, ils mangent une claque là, mm-hmm. parce qu'il fait extrêmement chaud. Là, tu dis aux mécanos, à milieu de vie, tu dois changer ça parce qu'on veut, c'est lisser le travail.
C'est parce que moi, si mon garagiste me dit en milieu de vie de changer mes pneus, je vais sentir l'arnaque, là. Je vais négocier avec. Même si je connais rien en char, on va dire, ben là, come on, là. Tu sais, d'habitude, on les traîne, puis on change quand on n'a pas le choix. On se comporte un peu comme un gouvernement avec notre propre voiture. Mais bon, c'est un peu ça, là, le principe là, d'économiser. Est-ce qu'il y a un principe d'économie présentement? Est-ce qu'il y a un principe de rigueur économique présentement au RTC? J'en doute, puis je suis sûr qu'il y a plein de bonnes raisons d'avoir des adresses yannemarceau.rtc.ca. Je suis convaincu qu'il y a des bonnes raisons. Mais tu regardes la valeur monétaire de la dépense, puis tu as un maire qui dit on est pris à la gorge et on n'a pas de marge de manœuvre. J'en vois une là, une marge de manœuvre. J'en vois une avec ton histoire de pneus. On est rendu à deux marges de manœuvre.
J'en vois beaucoup dans les commentaires là, des gens qui nous parlent de dépenses un peu frivoles, mal gérées. Ça fait vraiment partie, on dirait, de ce vortex et courant-là, de se dire des déficits, c'est pas si grave maintenant en politique. Puis en plus, en transport, on sait que c'est jamais nécessairement payant.
Déficit,
mais là, à quel point?
Déficit escompté pour 2024 au RTC est de 30 millions de dollars. Dans une entreprise privée, c'est totalement inacceptable. Non. Ça n'arrivera jamais. Il y a des têtes qui vont tomber. Il va y avoir des coupures de postes. Mais au RTC, avec l'accord de la mairie de Québec, on garde ça de même, on touche à rien, puis on demande plus d'argent aux automobilistes. Alors, au mois de mai dernier, on avait posé des questions par rapport justement au fait que le maire semble aimer beaucoup les taxes. Je l'appelle maintenant le marchand de taxes. Est-ce que...
Parce que le Bruno de taxes, ça marche pas.
Est-ce que vous êtes d'accord avec Bruno Marchand, 418-971-1021 par texto, là, quand il dit que ça demande beaucoup de courage politique pour amener cette nouvelle taxe-là sur l'immatriculation?
C'est OK, si tu veux donner du courage politique, tu le donnes à la première ville qui call une shot, OK? Puis encore là, ça peut se débattre, parce que c'est-tu du courage politique de taxer ses citoyens ou c'est du courage politique de demander à tes organismes de faire du ménage puis d'avoir une rigueur? Mais quand t'es la quatrième ou cinquième ville puis tu fais juste suivre la tendance, moi, je vois pas beaucoup de courage politique là-dedans. Je vois juste un gars qui voit une possibilité de dire on va vous taxer plus, ça va faire rentrer plus d'argent, mais c'est pas de notre faute, on fait juste suivre la tendance. Il n'y a pas de courage politique là-dedans.
Son débat, là, à un moment donné, il va y avoir un débat avec quelqu'un qui va se présenter contre lui à la mairie de Québec, qui va pouvoir y faire face. Mettons Sam Hamad.
Mettons.
Il va demander, dans votre carrière, vous avez été un quêteux, vous avez travaillé pour Centraide, merci de l'avoir fait, soit dit en passant, même si vous gagnez plusieurs centaines de milliers de dollars. Merci d'avoir travaillé pour au Centre de prévention du suicide. Vous avez été quêteux, vous demandiez toujours de l'argent à recevoir pour aider, puis merci de l'avoir fait d'ailleurs. Et là, à Ville, vos billets qu'on retient de vous, c'est les nouvelles taxes qui n'existaient pas. La taxe des chats, je veux dire, ça n'existait pas. Il a sorti une histoire comme quoi, la litière, c'était compliqué, puis il fallait absolument compenser. Donc là, quelqu'un qui a un chat à Québec doit s'acheter une petite médaille, c'est 12 à 13 $ par année, puis il doit se stouler lui-même à la Ville de Québec pour envoyer son 12 $.
D'ailleurs, si vous m'avez entendu dire que j'ai deux chats à la maison, c'est complètement faux, j'ai pas de chat, moi.
Moi, j'ai la chance qu'il n'y ait pas de poêle.
Il veut pas, ça compte les faire pas passer pour des dindes.
Ça compte pas comme un chat quand ça n'a pas de poêle.
Ils peuvent passer pour des dindes. Okay. Si je me fie au dernier qui est venu voir mes bacs, en passant, c'est commencé. Là. Il y a des gens qui vérifient vos bacs de récupération puis vos poubelles. Mm-hmm. J'ai vu des gars de la ville passer. C'était une femme. C'est une bonne question. Moi, elle a passé. Elle a regardé ma poubelle verte puis elle a regardé le bac de récupération bleu.
Elle check si ça sent litière.
Elle a ouvert puis elle a fermé puis elle est passée au prochain bac.
C'est 88-971.
C'est peut-être juste un immigrant qui veut manger nos chats et nos chiens. Là.
Ah non, non, c'est trop tôt.
Non, j'ai entendu ça hier, ça
c'est
doit
trop
être
tôt,
vrai.
C'est trop tôt, c'est
je l'ai entendu dans un débat présidentiel. Faut que ça aille un fond
une
de vérité.
Une de mes meilleures amies qui sera immigrante bientôt aux États-Unis, elle a dit attention. Elle a posté une photo hier avec sa face déformée, puis elle a dit attention, vous serrez bien vos animaux de compagnie, parce que moi, j'ai l'impression que je vais me piquer un snack dans quelques heures.
Je m'en viens manger vos chiens.
Mais le seul bilan, ça a été de quêter encore plus d'argent aux citoyens de Québec. Puis là, mais le RTC, déficit de 30 millions, comment qu'il y a de réserve dans le fonds vert à la Ville de Québec? Il y a exactement 30 millions de dollars.
Si tu me demandes d'investir davantage, puis c'est ce qu'on fait quand on va chercher des taxes, il faut que je sente le retour. Puis ça, c'est la partie du discours qui est manquante présentement. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut mieux desservir, entre autres, la section nord de la grande Ville de Québec avec le RTC. Il est où ce rendement-là? Il est où ce retour-là? On le voit pas. La performance ou la garantie de performance du RTC, on n'a pas ces données-là entre les mains. On voit juste passer une couple de nouvelles puis on se dit, tabarnouche, le parti a de la poignée, on s'ostine sur des niaiseries pour des dizaines de milliers de dollars, puis ça, c'est ce qu'on sait de façon générale.
Parce que ça a été fouillé par des journalistes et non parce que ça a été déployé par la ville en question. Il y a deux pistes là-dedans. Il y en a une qui est très intéressante et qui ne s'applique pas si jamais on entendait cette façon de se dédouaner-là. J'ai été mécanicien de véhicules lourds routiers. Mes véhicules lourds routiers, ça me fait rire, ce texto-là. Et plusieurs nous ont demandé de changer les pneus avant le temps parce qu'on avait une flotte et on ne savait pas à quel moment on allait revoir les camions. Ça, c'est une chose qu'on peut comprendre.
Mais les autobus, ils retournent au garage. Ben oui, ça marche pas.
Si on entend un genre de truc du genre, on pourrait se poser des questions. Puis l'autre affaire, ça me vient d'une réflexion personnelle. Des fois, dans certains départements, on a des subventions, on le sait. Puis là, dans ce qui est transport, on a des subventions. Des fois fédérales, des fois provinciales, des fois quand même on est au municipal. Et les subventions peuvent augmenter d'année en année, mais il faut que tu ailles tout dépenser ton enveloppe budgétaire. Fait que moi, là, hier, dans ma petite maison, je commençais à me questionner à savoir, c'est-tu une histoire de « on veut toujours que la subvention soit » engrosser, qu'elle prenne plus d'ampleur année après année.
Donc, on se trouve des façons de dépenser l'argent de la subvention.
Parce que c'est trop irréel.
Comme le monde qui
dépenses.
Achète des ordis neufs dans des départements de gouvernement la journée avant la fin de la subvention.
Et ça, c'est à revoir dans nos modèles de politique aussi. L'octroi de subvention, seulement si tu as tout dépensé ton enveloppe parce qu'on t'en donne moins l'année d'après.
Mais personnellement, je fonctionnais de même avec mes prêts et bourses au cégep. Quand il en restait après une semaine, je le buvais.
Ouais, mais t'étais jeune.
T'étais
aussi Québec solidaire.
J'étais pas très responsable.
Nick, il me dit, en 2007, il y avait un chef pour tous les contremaîtres du garage au RTC. Maintenant, il y a 6 chefs.
OK.
Alors qu'en 2007, c'était un chef. Il y a 2 directeurs pour 12 mécanos. Wow. Et il y a 2 contremaîtres aux mineurs de jour.
On en fait-tu de la structure?
Ouais.
C'est l'enfer.
On se sert du RTC pour créer de l'emploi. Mais tu sais, n'en demeure pas moins que j'ai hâte de voir les explications. Jeff Fortin, en passant, et à la conférence du maire actuel.
Il va venir nous voir cet après-midi.
Oui, donc il va être là. Puis on va avoir des extraits, bien entendu, à vous faire entendre. Mais comment il va être capable de justifier qu'il met une augmentation de 60 $ sur la taxe à l'immatriculation? Donc c'était déjà 30 depuis 2007. De mémoire, c'est-tu ça, 2007 à peu près? C'était déjà 30 $ Ça n'avait jamais été révisé. Puis là, on grimpe ça à 90 $ Comment il va justifier ça? Puis comme tu l'as dit tantôt, tu sais, l'audit de performance au RTC n'a pas encore été rendu public. Est-ce que lui a eu accès à ces dossiers-là? Puis là, il dit, ben moi, je regarde ça, puis tout, il y a une saine gestion au RTC.
Ce ne sera pas une décision populaire. Mettons que je me présenterais à la mairie à la prochaine élection, ce serait un point à réfléchir, ça. Qu'est-ce que je propose comme deal alternatif aux gens par rapport à l'immatriculation? Est-ce que je garantis plus de rendement? Est-ce que je garantis que cette taxe-là, je vais la baisser puis que je vais faire le ménage ailleurs? Ça, c'est un point de friction qui va faire mal au maire Marchand dans sa dernière année de mandat, c'est sûr et certain. Puis est-ce que les explications vont tenir la route aujourd'hui? Est-ce que les explications vont tenir la route quand il va venir nous jaser en studio? Et pire encore, est-ce que les explications vont tenir encore la route quand on va avoir entre les mains le bulletin de performance du RTC? Pas sûr.
OK, Québec est en train de devenir un enfer fiscal, puis je me demande qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver à la Ville de Québec, qui va regarder ça, il va dire « Ah, ben je vais couper là, je vais couper là, je vais couper là. » Le... Stéphane Lachance avait dit « Si un jour, ça c'est respect citoyen, si un jour je réussis à arriver à la tête de la Ville de Québec, ce que je vais faire, c'est enlever les 4 ans du maire, le faire complètement disparaître sur toutes ses décisions. » Je ne sais pas si ça
m'amade... C'est un peu radical.
Je ne sais pas si ça m'amade, ce serait dans ses idées. T'sais. Ben, lui, pas... il parlait plus peut-être des gens qui se dénoncent pour le foyer. C'est un foyer chez vous, tu dois te dénoncer. Ouais. La taxe
ce qui a pas
pour
passé,
les chats,
mettons.
La fameuse
gestapo des
chats.
Mais tu de dire, je prendrais tout, jeter à la poubelle, faisons une analyse.
Ouais. Mais c'est une image.
Mais il y a quelque chose, par exemple, que je vois qui ne fonctionne pas bien pour le citoyen de Québec présentement. Quand ça ne collabore pas entre les paliers, là, que ce soit le provincial, le fédéral, le municipal, t'sais, on a eu un ministre hier qui nous a reviré dans nos shorts, là. T'sais, concernant la sécurité publique, concernant la lutte au crime organisé, puis ainsi de suite.
François Bonnardel, en justice.
Le ministre Bonnardel, là, à la demande d'avoir plus d'argent, il a politiquement envoyé chier le maire Marchand en disant « Non, on a assez donné, puis arrangez-vous. »
Good job, en passant. Là.
Ben c'est parce qu'on a bonifié dans d'autres villes où le problème a grandi dans la dernière année. Puis je me dis, là, on est rendu dans le principe du bon voisinage. Si tu es en bonne collaboration avec un maire et une ville, tu vas donner de l'argent. Mais si ça marche pas, et c'est présentement le cas, là, on est pogné à la gorge au niveau de l'immatriculation, c'est de la faute au gouvernement. On est pogné à la gorge d'un travaux, c'est l'asile, c'est encore de la faute du gouvernement. Mais en même temps, on demande de l'argent. Fait que quand on demande de l'argent, qu'est-ce qu'on se fait dire? On se fait dire no fucking way.
Je dis à Bonnardel, good job, parce qu'il a juste pas dit comme Poilievre. Tu sais, nous autres, on t'a envoyé de l'argent il y a de ça de quelques années.
Mm-hmm.
On se justifie en disant, t'en as eu assez. On considère que tu le gères mal. Mm. Tu es un maire de la Ville de Québec. On n'a pas peur de toi comme on avait peur de l'autre avant. Fait qu'on te dit, organise-toi avec ce qu'on t'a donné.
Ouais.
C'est un message qu'on envoie, mais là, tu comprends, il n'y a personne qui parle de François Bonnardel en mal aujourd'hui. Mais s'il avait dit, nous, on donne de l'argent au maire, puis s'ils sont incompétents avec l'argent qu'on donne, c'est pas notre problème. Là, Bonnardel aurait été sous toutes les lèvres aujourd'hui.
Mais c'est une guerre d'ego qui nous sert pas, nous autres, en bout de ligne.
Mais non, ça nous sert jamais. Là. Ouais. Mais c'est un quêteux, le maire Marchand, puis il va falloir, dans la dernière année de son mandat, qu'il se dissocie justement du quêtage tout le temps. Les gens de Québec en veulent un service de transport en commun. Dans toutes les belles villes du monde, il y a du transport en commun. Mais si tu investis des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions supplémentaires, puis peut-être même des milliards, puis il reste encore juste 7 à 8 de gens qui prennent le transport en commun, t'es pas plus avancé.
Puis ça va faire mal parce que le défi de la Ville de Québec, c'est l'étendue de son territoire. Puis là, tu développes du transport en commun, mais tu le développes en 12 parties. J'exagère. Au lieu de le faire one shot, qu'est-ce que ça va avoir comme résultat? Les gens qui ne prennent pas le transport en commun ne pourront pas prendre le tramway plus. Puis c'est à eux autres qu'on va demander le financement. C'est à eux autres qu'on va demander de payer. Ils vont être pognés dans les travaux pendant 10 ans. Et quand tu vas avoir le résultat de ces travaux-là, ils ne pourront pas en profiter. Tu vas juste monter l'agressivité puis la colère d'une grande partie de tes citoyens qui déjà, aujourd'hui, en 2024, ont l'impression de tout payer pour des services qui ne peuvent pas se servir.
Oui, mais je reviens sur le point. Si on met des milliards, puis il n'y a pas plus que 7 à 8 des gens qui vont prendre le transport en commun avec tous les milliards qu'on a remis en place, on va s'arrêter quand?
Je sais pas.
Bien, moi, je te le dis, là. On va s'arrêter quand tous les citoyens qui circulent sur nos routes avec un véhicule solo vont être hyper taxés. Ces gens-là vont être hyper pauvres. Ils vont se ramasser dans le transport en commun. Puis c'est ce qu'ils font présentement. Ouais. Là. Ils mettent tout. Tu sais, le maire Marchand a dit qu'à Québec, actuellement, c'est l'enfer. Ben, regarde un peu les chantiers qui sont mis en place. Là. Vous n'avez pas nécessairement aidé. Vous mettez des bollards à des endroits où ça ne sert pas, puis d'autres où il devrait y avoir des bollards, où il n'y en a pas pantoute. Il y a des détours qui se font. On a enlevé des stationnements. Tout est plus compliqué depuis que le maire est là puis qu'il essaie de nous mettre les bâtons dans les roues. Il a beau dire qu'il ne fait pas la guerre à l'auto. Lui, il dit « je fais la guerre à la... »
Congestion.
Au trafic.
Oui, oui.
Mais c'est la guerre à l'auto qui est entamée.
C'est parce que si tu fais juste changer le vocabulaire puis que tu ne changes pas le fond, c'est comme dire « j'enlève les commissions scolaires ». En fait, tu ne les enlèves pas, tu les changes de nom puis tu rajoutes des cadres.
Ça t'a coûté extrêmement cher.
Voilà. Je pense que les gens ne sont pas dupes là, de ce genre de choses-là. Si tu es vraiment en guerre contre la congestion, montre-nous c'est quoi tes alignements différents qui vont faire en sorte que l'automobiliste va se sentir concerné puis pas opprimé dans cette guerre-là à la congestion.
Hier, j'étais à l'hôpital. Je suis sorti de là au petit matin, puis ça me faisait plaisir de venir travailler tantôt, d'ailleurs. Et c'était la présidentielle, un débat présidentiel hier. Il y avait Donald Trump qui était là avec Kamala Harris.
Ouais.
J'ai écouté quelques extraits. Je ne l'ai pas écouté au grand complet.
J'ai écouté la première heure et demie.
Kamala Harris n'a pas gagné, mais elle n'a pas perdu. Et Trump a perdu.
C'est un bon constat. Écoute, moi, il y a du non-verbal que j'ai trouvé puissant hier. Puis Kamala Harris, dans la première heure du débat, n'a pas été à la hauteur de son non-verbal. Moi, une fille qui s'en va chercher Donald Trump en arrière de son lutrin pour y serrer la main puis dire « Hey, fais donc un bon débat, gros colon. » C'est pas ça qu'elle a dit, mais c'est ça que ça voulait dire. Lui, il a essayé, là. Il est allé se cacher en arrière de son lutrin pour être sûr de ne pas y serrer la main. Est allé le chercher. Ouais. J'aurais voulu entendre cette drive-là quand elle s'est mise à s'exprimer. Puis on a les mêmes débats à grandeur de la planète. Hein. T'as un debater qui pose une question, puis t'as des politiciens qui se calissent de la question puis qui partent de la cassette. Kamala Harris, c'est ça qu'elle a fait hier. Dès la première question, on a senti qu'elle était excessivement nerveuse. Il y en a plusieurs qui peuvent comprendre dans sa position. Elle sait très bien que c'est sa passe ou sa casse. Il faut qu'elle gagne ce débat-là. Mais elle était tellement nerveuse, puis elle nous sortait tellement des messages qui étaient préenregistrés que moi, ma première impression, avant que Donald Trump s'enfonce lui-même, était plutôt négative. Je me disais, tabarnouche, elle va l'échapper, ouais. elle va l'échapper. Mais il y a une chose probablement qui a été dite à Donald Trump avant de se présenter sur le débat. Elle va te parler de tes rassemblements, là. Lâche ton concours de zigounette, là, puis reviens-en, là. Tombe pas dans le panneau. Ben, le gros tonton, il est tombé dans le panneau. Il est devenu fou à partir de ce moment-là. Puis là, il s'est mis à dire des conneries, là. Les immigrants qui mangent nos chiens puis nos chats, des docteurs qui tuent des enfants sortis du ventre de leur mère dans des prisons.
Les transgenres aliens en prison qu'on va rechercher.
Le gars va pas bien. Puis j'échangeais hier avec des autres.
Le gars va pas bien.
Mais il est rendu sénile, là.
Ben, je pense que oui, puis j'ai échangé avec des autres.
Attends un peu, là, deux mois, on avait un vraiment sénile, l'autre, on le savait pas. On voyait que des fois, il comptait des mensonges, puis il disait des absurdités. Là, on est rendu avec un sénile.
En fait, on en avait deux.
On en avait deux.
Là, on s'en rend compte.
On savait pas.
Ouais, mais là, il paraissait moins en arrière de l'autre. Là, il paraît plus. Okay.
Mais ça a démontré qu'il n'était pas structuré pour les prochaines présidentielles. En fait, il structure. Tu sais, il y a des gens qui. Puis je trouvais ça intéressant, puis mon analyse était là hier. Donald Trump est plus à la présidentielle pour les États-Unis en ce moment, et vraiment pour rétablir sa réputation et redevenir la puissance qu'il se croyait et qu'il pensait être là, en termes d'homme. Puis Kamala Harris, plus tard, ça a pris une bonne heure et demie avant qu'elle soit capable de se positionner et revenir à peut-être, comment dire, une élocution qui suivait pas des lignes préécrites. Là, elle a comme pris le lead du discours au moment où il a commencé à se planter.
Puis je comprends que tout le monde peut avoir ses opinions, ses favoris et ainsi de suite, mais je pense que depuis l'invention des démocraties, la phrase la plus ridicule qui a jamais été dite dans l'histoire d'un débat démocratique, de nation démocratique, c'est « les immigrants mangent nos chats et nos chiens ». Il l'a dit hier, mot pour mot. Il va falloir qu'il vive et qu'il meure avec.
Springfield est en panique en ce moment.
J'échangeais avec des auditeurs hier, Yannick, qui ont aimé le mandat présidentiel de Donald Trump, puis qui disaient « Tabarnouche, le gars en a donc bien perdu. » J'avais l'impression qu'il amenait un renouveau quand il a été élu, quand il est arrivé à Maison-Blanche et ainsi de suite. Il dit là, je l'écoute, il dit « Je me sens mal à l'aise, je reconnais plus le gars que je trouvais qui amenait un peu de gros bon sens quand il est arrivé la première fois à Maison-Blanche. »
Il avait des idées économiques, il avait travaillé sur des plans avec son équipe. Il y a vraiment eu un switch entre proposition politique versus proposition personnelle de qui je suis.
Puis je pense que le pouvoir corrompt dans une certaine mesure. Puis je pense que dans la vie d'un mégalomane comme Donald Trump, d'avoir été 4 ans à la Maison-Blanche, ça a déréglé son pH.
Il y a un côté narcissique aussi chez Donald Trump.
Il y a aussi le fait, puis moi, très honnêtement, là, Harris, Trump, Biden, j'en ai rien à battre, c'est pas chez nous. Je trouve ça intéressant parce que la politique américaine est plus intéressante que la politique canadienne. J'aime bien la politique provinciale ici, puis j'aime bien la politique municipale.
C'est pas chez nous, mais j'ai deux chats dans le sous-sol, à cette heure, je barre mes portes, je prends plus de chance.
Exact. Mais au départ, on nous avait tellement décrit Donald Trump comme étant c'est Satan qui prend place à la présidentielle pendant 4 ans, que ce qu'il a fait pendant 4 ans, ça allait tellement à l'encontre de ce qu'on nous disait avant qu'on a comme été agréablement surpris par ce qu'on a eu pendant ce 4 ans-là.
Moi, je suis cynique en politique, puis je suis vraiment en débat avec moi-même présentement parce que Donald Trump, c'est le résultat du cynisme politique. C'est que tu te dis, il n'y a rien qui marche en politique. On va pitcher de la merde ses murs, puis on va voir si ça colle. Fait que là, on s'est tourné vers les personnalités publiques, puis ça, c'est pas une affaire de droite, c'est une affaire de gauche et de droite. Quand Will Smith puis The Rock commencent à penser devenir président américain, Je pense que ça fait partie du problème un petit peu. Et dans le cas de Donald Trump, tout le monde riait de lui. Tout le monde disait, ben voyons donc, ça ira pas loin. Puis finalement, il a réussi à se rendre au bout. Bravo à lui. Mais de voir ce que ça a donné, de voir les conséquences de ça, de voir où la politique est rendue présentement, puis non, c'est pas à lui de porter ce fardeau-là tout seul, mais mettons qu'il a accéléré l'agressivité du débat. L'insurrection de la Maison-Blanche, ce qui est arrivé là, le 6 janvier de je sais plus quelle année, là, avec le gars déguisé en Chewbacca là, qui voulait rentrer à Maison-Blanche, c'est pas des choses. Moi, c'est pas des choses que je veux voir dans une démocratie, là, ni à gauche, ni à droite. Puis en même temps, je me dis, moi, je suis un cynique. Tu sais, je vote pas tant que quelqu'un ne m'excitera pas politiquement. Puis quand quelqu'un va m'exciter politiquement, je vais y aller voter. Je veux pas voter contre quelqu'un. Je trouve que c'est contre-productif. Mais le cynisme a créé Donald Trump. Le cynisme a amené Donald Trump à la Maison-Blanche. Fait que je suis comme
Et ça a divisé le peuple. Avant, les États-Unis, il y avait une vision au sein du peuple, bien que tu avais quand même des dissociations politiques, démocrates, républicains, tu avais quand même un sentiment de fierté d'être américain et de propulser les choses, quelles qu'elles soient dans quelle sphère, au top. Et en ce moment, depuis l'arrivée de Donald Trump, il a tellement travaillé fort à diviser le peuple qu'il y a un fragment visible, quasiment tangible, on peut le toucher, entre État, personne, famille, amis. Au-delà d'une vision politique, on parle aussi du social. C'est rendu fulgurant de voir que même la première puissance mondiale, qui était liée l'une avec les autres avec des valeurs pour le moins occidentales, est en train de se fractionner.
Mais ça semble être de nouvelles stratégies politiques. J'écoutais, il est excellent d'ailleurs, c'est quoi son nom? Farnell...
oui, qui est avec les gars le matin.
Farnell
oui.
Morissette, c'est tout ça son nom? Lui disait ce matin, puis il parlait du débat présidentiel, il dit maintenant, les candidats n'essayent plus d'aller chercher du nouveau monde. Ils n'essayent plus d'aller séduire des gens qui sont loin de leur base.
Ils parlent à leur crowd.
Oui, ils parlent à leur crowd, puis ils veulent rassurer leur crowd, ils veulent beurrer épais avec leur crowd, puis ça, bien, ça aide au sentiment de division, puis c'est malheureux. T'as deux personnes dont... Bien, tu sais, Kamala Harris a dit qu'elle veut être la présidente de tous les Américains, mais en même temps, quand elle parle à sa base, elle parle pas aux gens à côté, puis je trouve pas qu'elle a essayé suffisamment d'élargir son discours pour aller chercher des gens qui sont peut-être déçus, cyniques, indécis ou whatever. Donald Trump a clairement juste parlé à sa base très basic hier là, avec les phrases qu'il a dit.
Je suivais les fils de chat. Là. Moi, j'avais mon iPad, deux écrans d'ordinateur puis ma télé. Puis, moi, je suis le même, je suis un peu folle. Les fils de chat, là,
ouais.
C'était une idiotie. Là. J'ai écrit plein de mots, là, pour tantôt on en parlera aussi avec Louis Gauthier, là, qui ressortaient. Puis c'est vraiment catastrophique là, en ce moment.
On est passé d'un extrême à l'autre, puis je ne sais pas c'est quoi qui est la meilleure stratégie. Tu sais, Robert Bourassa faisait rire de lui à l'époque qu'il était premier ministre parce que c'était le gars qui coupait tout le temps à moitié puis qui était tout le temps assis entre deux chaises. Puis on se disait, c'est pas ça qu'on veut. Tu sais, on veut quelqu'un qui se commet politiquement avec des valeurs claires puis whatever. Puis on disait, ben on veut pas un premier ministre qui fait des compromis. Mais quand je vois un débat comme celui-là d'hier... Je suis obligé de te dire, Yann, je m'ennuie peut-être un peu du compromis de gens qui pensaient à l'ensemble de la société puis qui se disaient, il y a du monde à droite, il y a du monde à gauche, il y a du monde dans le milieu, je vais essayer de ramasser le plus grand nombre
un
de personnes possible.
Un leadership rassembleur.
Quitte à passer pour un mou.
Mais c'est-tu vraiment ça que les gens veulent?
Je le sais pas. Je lance la question, j'ai pas à répondre.
J'entendais Gabriel Nadeau-Dubois, avec qui je m'entendrais jamais hier. Là. il a dit que les politiciens sont de plus en plus d'extrême droite avec des idées populistes.
Ben je pense qu'il y a les deux extrêmes.
Mais t'es peu.
Ouais.
Des idées populistes, c'est, qu'est-ce que ça veut dire, ça, des idées populistes?
Ça veut dire des idées qui
plaisent sont populaires,
au ouais.
qui plaisent au monde.
Ouais.
Okay? C'est nous, les vrais patrons de ces politiciens-là.
Mais populiste, un sous-entendu négatif aussi de dire on tourne les coins ronds puis on dit au monde ce qu'ils veulent entendre.
Alors que moi, si j'étais politicien, quelque chose qui est populaire comme demande des citoyens, ben je me pencherais là-dessus en disant, OK, ben les gens ont besoin de telle ou telle affaire, je trouve ça intéressant, on peut tout s'asseoir puis les réaliser, parce que c'est eux les vrais boss, c'est les payeurs de taxes. Mais là, pour Gabriel Nadeau-Dubois, une idée populiste, c'est une idée d'extrême droite, Denis. Je veux dire, eux autres sont à l'extrême gauche, mais une idée populiste, ça peut être une idée qui est au centre, qui est populaire et qui plaît à tout le monde.
Je pense que la première chose qu'on devrait faire, là, si on veut essayer d'améliorer un peu la politique actuellement, c'est de reconnaître que tout le monde est dans l'extrême et dans le populisme un petit peu plus. Puis c'est pas exclusif à la droite, c'est pas exclusif à la gauche non plus. Tout le monde utilise ou à peu près les mêmes stratégies. Dans le temps qu'elle était là, je trouvais que Catherine Dorion faisait de la politique exactement comme Donald Trump. La même façon de garrocher des arguments
exact.
Épais, On tourne les coins ronds, on fait des images choc. Ça, c'est à radio de faire ça. Laissez-nous notre job, puis gouverner. Là. C'est à nous autres de tourner les coins ronds, oui. Puis faire des grosses images qui n'ont pas d'allure.
Oui, mais après leur carrière en politique, ils peuvent faire de la radio maintenant.
Ouais, ben ouais. C'est ça, c'est interchangeable. On va tous se ramasser en politique.
Après ça, ils redeviennent ministres, puis là, ils pleurent parce qu'ils ont fait des promesses. Puis là, ils regardent au ciel.
Hey, pensais-tu qu'en passant par la radio, tu pouvais devenir ministre de l'Éducation?
Non.
J'avais pas vu ce porte-là, moi.
Il était en politique avant.
Ouais. Oh,
il était déjà envoyé spécial. Hey. Ensuite,
laisse-moi
la
faire ma job puis tourner coin rond.
Denis Coderre.
Mais moi, c'est quoi ma job de bord? Je sais pas, vous avez plus besoin de moi.
Il me doit le
pas
cul.
Dans les tâches.
Il me doit le cul, mais j'aurais besoin d'une job. Mon nom, c'est Denis Coderre.
Ouais, va pas bien, Denis.
Non, ça va pas bien. Hey, y a des gens qui me mentionnent par texto, par passant, dans le pit stop, vous êtes les bienvenus oui. À collaborer avec nous par texto 88-971-101. Beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais Harris a pas répondu à ben des questions. Effectivement, c'était une faille là, du côté de Kamala Harris quand ouais. Elle avait des questions qui étaient très précises.
C'est la première affaire que j'ai dit, hein. Je veux dire, elle servait...
Elle partait de l'autre bord.
Ouais, c'est ça. Elle servait d'une question pour partir la cassette, puis des fois, la cassette avait aucun lien avec
exact.
La question.
Comment t'as trouvé les gens qui accompagnaient ce fameux débat-là, qui arrivait avec des fact-checks constamment, plus d'un bord que de l'autre?
Bien, j'ai vu un chiffre passer tantôt, à savoir, tu sais, après le débat, il y a combien de mensonges qui ont été dits. Puis... Ça vaut ce que ça vaut. C'est un décompte. Il y en a qui vont dire ses partisans. Trump aurait proféré 33 mensonges. Kamala Harris en aurait fait un. Donc, c'est normal que le fact-checking aille yang d'un bord quand il y a des mensonges, yang d'un bord. Puis moi, je pense que c'est la responsabilité d'un journaliste de ABC d'intervenir pour dire non, les immigrants ne mangent pas nos chats et nos chiens. Je pense que c'est un devoir de citoyen de s'interposer quand il se dit des conneries comme ça. Là.
Denis Gravel,
hey.
Passe donc une belle journée.
Hey, vous autres aussi, pas attention à vos chiens et vos chats.
Un chien.
Hey, j'ai faim.
On t'écoute dans le retour à 14h. Puis en passant, il y a des inspecteurs. Tu as dit qu'il y avait des chats chez vous. Tantôt, tu n'as pas payé ta licence, le 12
$13. C'est pas ça que j'ai dit.
Oui.
C'est pas ça que j'ai dit.
Tu n'en avais pas.
La Gestapo.
Mais fact-check, pas ça.
La Gestapo est en bas, là. Tu vas devoir sortir de l'argent de tes poches.
Fait que c'est ça, un chien chaud, finalement.
Eh bien. Puis 10h35, on revient. Le garage à Dan.